Bonsoir, bienvenue dans un monde nouveau, le magazine qui fait résonner les mots de notre époque. Souvenez-vous, on disait « rien ne sera plus jamais pareil, il y aura un avant et un après ». Souvenez-vous quand on l'imaginait, ce monde d'après, plus beau, plus juste, plus pur, comme cette terre débarrassée des pots d'échappement.
Il a fallu en arriver là pour faire équipe. Prendre conscience qu'en vrai on s'en branle de la dette publique. Tous pareils, caissières, infirmières ou traders. Même si ces derniers mois c'était surtout nous les chômeurs. Et la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Et demain, on fera quoi? On fera pareil, moquait cette parodie de Brout, le collectif qui prend un malin plaisir à détourner les clichés de notre époque. Les lendemains qui chantent, elle n'y croit pas vraiment non plus. Comme Albert Camus, dont elle est une spécialiste, elle se méfie des révolutions. La philosophe Marilyn Maezo est notre première invitée ce soir. Chanter non pas les lendemains, mais la poésie du monde, cette lumière mangeuse d'ombre qui, selon lui, serait partout. Il suffirait de se pencher en nous. Le poète et slameur Souleymane Diamanka vient faire résonner les mots ce soir dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Les mots du métissage heureux, français, sénégalais, peul et bordelais, habitants de nulle part, originaires de partout. C'est le titre du premier recueil de poésie de l'ancien rappeur du groupe Django Ganda.
Tout n'est qu'une question de temps, mais le temps a raison de tout. Croyez-moi, il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou. Il y a de quoi devenir fou.
Et il n'est pas devenu fou, il est devenu poète. Le franco-sénégalais Souleymane Diamanka est notre invité ce soir. Les mots qui trompent, les mots qui consolent, les mots qui unissent. Tous les mots sont dans un monde nouveau ce soir sur France Inter.
France Inter. Sonia Khirony. Un monde nouveau.
Et justement, on va partir tout de suite pour le Sénégal avec Las et Yakomoum.
Yarunga ñun dé lér nañu fula dan xaar yow gis nañ la fa fula dan sentu yow fekk nga ñu fa da nga don ku yaru giñ ni roy da nga don ku bax ak sa di ko bi
Say
Yakomom, le premier titre de Las, musicien sénégalais qui concilie tradition acoustique d'Afrique occidentale et arrangement électropop, un avant-goût du premier EP qui sort en septembre. Et après, à quoi ressemblera le monde d'après la pandémie? Depuis le printemps 2020 et le premier confinement, nombre d'auteurs, d'intellectuels, d'artistes, de simples citoyens, on s'est tous posé la question, et on se la pose ici, chaque soir sur France Inter, dans un monde nouveau. Mais elle nous met en garde. Et si le nouveau monde n'existait pas? Marilyn Maezo est normalienne, agrégée de philosophie et spécialiste de l'œuvre d'Albert Camus, auteur de « Les lendemains qui chantent », lendemain en deux mots, aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Marilyn Maezo.
Bonsoir.
À aucun moment, vous n'avez cédé à la tentation, comme bon nombre d'entre nous, et je me mets dedans, hein, sans problème, la tentation de croire à un monde d'après qui ne serait plus le même.
Bah, disons que cette image du monde d'après n'avait rien d'inédite. C'était une sorte de récurrence, en fait, à l'échelle de l'histoire. Donc, à partir du moment où cette notion est arrivée assez tôt, d'ailleurs, au moment de la pandémie, je l'ai mise en parallèle avec ses précédents et j'ai eu une vision assez critique de ce qu'elle peut impliquer.
Et c'est-à-dire qu'il y a un an, vous écriviez « Si les millions de morts de la Première Guerre mondiale n'ont pas suffi à dissuader les nations de s'entretuer de plus belle 20 ans après, si l'antisémitisme et l'homophobie continuent de se banaliser et d'assassiner en dépit de ce que nous avons appris du nazisme, si les épidémies meurtrières qui font encore des ravages ne réveillent pas les antivax de leur sommeil conspirationniste, c'est peut-être beaucoup attendre du coronavirus que de prétendre lui tailler un destin de pierre angulaire. » Vous faites exactement le même constat aujourd'hui ?
Oui, j'avoue que je ne changerai pas une ligne. Le début du passage que vous venez de citer fait référence à une pensée que j'ai eue quand j'étais au collège et au lycée, quand on enseignait la Première Guerre mondiale et qu'on nous apprenait qu'à l'époque, on l'appelait la DR des DR. Et quand juste après, vous apprenez qu'il y a une Seconde Guerre mondiale et vous vous rendez compte que, en l'espace de quelques décennies, cette DR des DR, ben, finalement, n'était pas la DR des DR. De la même manière, quand vous voyez qu'il y a quand même des épidémies à l'échelle de la planète qui ont tué des millions d'individus, voire une majorité de la population européenne, je pense notamment à la peste, hein, et que malgré ça, vous avez des discours complotistes sur les vaccins qui font que les antivax, à l'heure actuelle, ont toujours le vent en poupe, bah, vous vous imaginez bien qu'un virus comme le coronavirus, qui est certes terrible, hein, mais qui n'a pas fait des dégâts comparables à ce qui s'est passé avec d'autres maladies, ça, c'est effectivement, je pense, beaucoup attendre de lui que d'imaginer que d'un seul coup, il pourrait changer notre manière de nous rapporter au monde.
Et en quoi est-il non seulement illusoire, mais si je comprends bien, contre-productif, voire même dangereux, de penser cet après comme une rupture ?
Bah, parce que c'est un côté un petit peu, si vous voulez, c'est une façon de se réfugier dans la fiction pour moi. Quand vous pensez le monde d'après comme une rupture brutale, bah, c'est une façon de croire à ce qu'on appelait à une certaine époque le mythe du grand soir, en fait. C'est un petit peu mutatis mutandis, l'équivalent de la croyance aux révolutions définitives. Ça, c'est mon approche camusienne des choses. Je ne crois pas plus que Camus, aux révolutions définitives. Je pars du principe qu'à l'échelle de l'histoire, jusqu'à preuve du contraire, les changements se sont toujours faits de manière extrêmement progressive. Camus le disait d'ailleurs, hein, en 1949, il faut des litres et des litres de sang, une quantité de douleur et de sacrifice incommensurable pour provoquer les quelques nuances qui rendront le monde un peu plus supportable ou un peu moins insupportable. Même quand on imagine la révolution, quand on parle de la révolution française ou de la révolution russe ou d'autres révolutions de ce calibre, il y a la réalité de ces révolutions qu'on apprend par exemple quand on suit des cours d'histoire. Et puis il y a le mythe de la révolution qui justement s'imagine que d'un seul coup, en 1789, un peuple est devenu républicain, si vous voulez, par exemple. Quand vous allez en cours, vous apprenez qu'en fait non, en 1789, c'était encore la monarchie, que ça a pris beaucoup de temps, qu'il y a eu des allers-retours entre la monarchie et la République en passant par l'Empire. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'entre le mythe de la révolution, de la rupture brutale, si vous voulez, du monde d'après, et puis la réalité, qui permet de passer d'une époque à une autre, d'une société à une autre, d'un régime à un autre, on se rend compte qu'il y a, un fossé incommensurable entre la réalité et la fiction.
On va l'écouter justement, Albert Camus, qui nous parle de La Peste, son grand roman publié en 1947.
La Peste, pour la résumer grossièrement, est l'histoire d'une épidémie qui s'abat sur une ville où des gens qui vivaient individuellement de la manière la plus banale et la plus simple sont peu à peu entraînés dans cette épidémie, dans cette tragédie collective, et finissent par ne faire qu'un amalgame, enfin, sous la domination de la maladie. Et ensuite, la maladie recule, et peu à peu, ces individus reprennent leur activité comme ils peuvent.
C'est la même chose que vous observez aujourd'hui, Marilyn Maezo. Chacun reprend son activité un peu comme il peut, et puis advienne que pourra.
C'est vrai que ça fait c'est très étrange d'entendre ces réflexions de Camus sur son roman. Roman qui d'ailleurs a connu un regain de succès dans le contexte de l'épidémie. Effectivement, on a l'impression qu'il est visionnaire de ce point de vue-là. Mmh. En réalité, il n'est pas visionnaire, c'est juste qu'il décrit une sorte d'invariant anthropologique qui est justement cet attachement qu'on a à l'image de l'après quand on est dans une situation qui est insupportable. L'une des manières de tenir pendant cette ce que Camus appellera un état de siège aussi, hein, l'autre métaphore qu'il emploiera, c'est de s'imaginer que ça ne va pas durer et que le monde d'après sera radieux. Donc effectivement, d'un côté, il y a le déni de la population, hein, dans le roman qui est durable. Il part du principe que ça ne peut pas durer, c'est trop bête. Et ce à quoi le narrateur de La Peste répond la célèbre formule « la bêtise insiste toujours ». Autrement dit, c'est pas parce que quelque chose nous semble stupide, c'est pas parce que les guerres nous semblent stupides qu'on va pas continuer à se faire la guerre. Et d'autre part, à côté de ce déni prolongé et de cet attachement à l'image de l'après-épidémie, de l'après-guerre, de l'après-fléau, il y a aussi une réalité, là encore, qui vient rompre la fiction. C'est qu'on se rend compte que le monde d'après, bien souvent, c'est pas un monde... comme on pouvait l'imaginer, un monde où il y a tout qui a changé, c'est au contraire le retour de l'avant. Quand on regarde ce que décrit Camus, hein, une fois que les morts arrêtent de s'accumuler, ça y est, les choses reviennent à la normale. Le monde d'après dont rêvent les Oranais, c'est le retour à leurs petites habitudes d'avant. Or, quand on y réfléchit, il faut faire une distinction entre ceux qui imaginent le monde d'après en accumulant justement les changements. Par exemple, l'idée qu'on refondrait complètement notre système de santé, ou que sais-je encore, en termes d'écologie, en termes de politique, en termes de société. L'idée que finalement les crises sanitaires ont une fonction à remplir. Que c'est pas possible qu'une chose aussi horrible se produise sans qu'on en tire des leçons massives. Il y a ces gens-là, effectivement, qui pensent que le monde d'après sera un monde radicalement différent. Et puis, il y a, je pense, c'est mon point de vue qui vaut ce qu'il vaut, la majorité de la population qui, par monde d'après, entend en réalité retour du monde d'avant la crise. Retour du monde d'avant où on peut aller retourner au cinéma, retourner au restaurant, ce qui d'ailleurs a tendance, à mon sens, à être prouvé par les réticences qui s'expriment autour du pass sanitaire. Mmh. Parce que le pass sanitaire, justement, pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour retrouver les lieux de convivialité tels qu'on les avait avant le début de l'épidémie, il y a une réticence majeure, je pense en particulier au cinéma, où apparemment il y a des baisses de fréquentation qui sont assez spectaculaires dernièrement suite à l'instauration du pass sanitaire. Ce qui, à mon avis, bloque, c'est justement que les gens étaient très attachés à l'idée de retrouver le monde d'avant tel qu'il était avant. Or, le pass sanitaire, c'est justement ce qui empêche ce retour au monde d'après l'épidémie, parce que ça rappelle que le virus est encore là et que non, on ne peut pas faire comme si de rien n'était.
Dernière question, vous êtes prof de philosophie en lycée. Qu'est-ce que la pandémie laissera, selon vous, comme trace dans cette nouvelle génération à qui on ne cesse de prédire un avenir terrible et à qui on dit en même temps bien que c'est à elle qui reviendra de sauver le monde ?
C'est vrai qu'on a parlé, hein, dans le contexte de la crise sanitaire, de générations sacrifiées, et on ne peut pas minimiser, hein, l'impact que le Covid, les, les confinements à répétition ont pu avoir sur les enfants, notamment sur les élèves, le fait de parfois d'avoir des établissements qui étaient fermés, de devoir faire cours à distance avec tous les cafouillages et les problèmes que ça a pu poser, le bac qui a dû être si vous voulez rafistoler au fur et à mesure, des épreuves annulées, ça a fait beaucoup de choses en l'espace de finalement un peu plus d'un an et demi, bientôt deux ans, pour des jeunes esprits, des jeunes personnes qui sont même pas encore arrivées sur le monde du travail. Ça, c'est pas à minimiser. En même temps, j'ai envie de dire des générations jeunes comme ça qui ont eu à affronter des choses terribles. Il y en a eu beaucoup avant celle d'aujourd'hui. Enfin, on parlait des guerres tout à l'heure. Les générations qui à 18-20 ans se retrouvent sur le front, ça laisse aussi une trace indélébile dans un autre registre, évidemment. Donc, je ne dis pas ça pour minimiser la détresse des jeunes actuels. Au contraire, on sait qu'il y a un impact psychologique, notamment de l'épidémie, qui a été minimisé pendant trop longtemps. Je le mets en parallèle pour finir sur une note d'optimisme, en fait, sur la capacité, même si j'aime pas trop ce mot, de résilience qui est propre aux jeunes, qui fait que quelles que soient les épreuves qu'ils ont rencontrées, je ne doute pas que avec la solidarité qui s'est mise en place en ce qui concerne leurs professeurs ou autour de leurs professeurs, avec l'aide de leurs parents et puis de leurs camarades de classe qui ont vécu la même chose, je pense pas, si vous voulez, qu'on puisse parler de génération Covid comme je l'entends parfois, parce que ça laisse entendre que finalement le Covid, c'est ce qui va définir cette génération, qu'elle commence et qu'elle s'arrête avec le Covid, alors que à mes yeux le Covid ne sera qu'un événement certes important mais absolument pas unique dans la vie et l'identité de cette génération.
On va terminer sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Marilyn Maezo. Je rappelle et j'annonce même le titre de votre prochain ouvrage qui sortira le 13 octobre prochain, La petite fabrique de l'inhumain, toujours aux éditions de l'Observatoire. Merci.
Je l'ai revue au coin de la rue. Il voulait me faire croire au hasard. J'avais toujours voulu le revoir. Et il était soudain réapparu. Je l'ai emmené chez moi pour qu'il revoie tous les portraits qu'il avait fait de nous. Ceux des gens qu'on n'avait pas revus. Le soir venant, il est retourné à la rue. Le soir venu, je pensais à lui. Sa bouche la même et ses yeux pointus. Sa voix, il n'avait rien perdu. C'était le même que j'avais aimé, que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Que j'avais aimé. Il est revenu, les poings serrés et la bouche cousue. Il voulait me confier un secret. Au lieu de ça, il m'a embrassé et il a tout gardé. Yeah.
and the Atlas Mountains, qui revient avec Revue, huitième titre de son dernier album psychédélique Banane Bleue, sorti en février dernier.
Un monde nouveau. Sonia Khirouni sur France Inter.
À la campagne, en ville, en plein air et dans les salles obscures, on continue de scruter le monde nouveau avec Fanny Chéroux. Bonsoir Fanny.
Bonsoir.
Chef de rubrique à La Croix, l'Hebdo, le magazine qui prend le contre-pied de l'actu chaude pour offrir un temps long et des raisons concrètes d'espérer. Et Bruno Desruisseaux, des Un Rock. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
On commence avec vous Fanny, ce soir vous nous parlez d'une sorte de Le Bon Coin destiné aux agriculteurs et à ceux qui réfléchissent à se lancer.
Oui, c'est l'association Terre de Liens qui l'a créée en novembre dernier. C'est une association autonome qui se bat pour préserver le foncier agricole et céder les terres dans une démarche écologique pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans la grande aventure de la terre en partant de rien. Un des principaux critères étant d'aspirer à nourrir évidemment au-delà de son propre foyer. Donc le but de cette plateforme, c'est d'apporter une réponse au fait que plus de la moitié des agriculteurs ont aujourd'hui plus de 50 ans, que le nombre de petites fermes ne cesse de chuter. Et puis pour donner juste un chiffre un peu vertigineux, en 1970, on comptait plus d'1 500 000 exploitations. Et aujourd'hui, on en compte moins de 500 000. Dans le lot, il y a celles qui grossissent, mais il y a aussi celles qui disparaissent.
Et donc, quand on voit l'urgence de cette question de la relève agricole, on est étonné finalement que ce genre d'outil de mise en relation n'existe pas depuis plus longtemps.
Cette plateforme, elle n'invente rien en soi, mais en fait, elle complète un panel d'outils plus large qui existait déjà. Et elle se spécialise, je dirais, dans une démarche d'agriculture responsable en s'adossant à des structures historiques comme la SAFER, qui porte depuis plus de 60 ans un regard légal et juridique sur toutes les transactions foncières agricoles en France. La SAFER, d'ailleurs, elle aide les jeunes agriculteurs aussi à s'installer en apportant des avantages fiscaux et beaucoup d'autres facilités. Objectif Terre, c'est un outil de plus, pratique, ludique, relativement simple dans son usage. Mmh. Et ça permet de se projeter géographiquement. Et ça vient répondre surtout à un enjeu gigantesque qui attend la France de demain sur le plan agricole, sur la relève, en fait.
Et donc c'est fini, Fanny, le temps où c'était les enfants qui reprenaient la ferme, c'est un monde nouveau qui s'ouvre aussi pour les novices.
Quand les enfants, ou plutôt l'enfant d'agriculteur, reprend l'exploitation familiale, ça reste le principal. Mmh. Ils sont encore 7 sur 10 à prendre le relais de leurs parents, mais c'est un système en déclin. Et je me souviens d'une agricultrice de 39 ans qui m'a dit ceci, je la cite, « Il est quasiment impossible pour un jeune agriculteur de s'installer s'il n'est pas issu du milieu agricole. C'est dommage car ça renouvellerait le sang. » Elle avait hérité de la ferme paternelle dans le Pas-de-Calais. Donc en gros, les nouveaux agriculteurs restent minoritaires et on va pas se mentir, l'aventure restera toujours plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec l'outil ou la culture agricole. Et surtout qui n'hérite pas en fait d'une ferme et qui devra tout bâtir seul. Mais vu l'enjeu qui nous attend dans le monde nouveau, la France aura aussi besoin de ce sang neuf, je pense. Oui.
Merci Fanny. Cette enquête très intéressante que vous avez signée, intitulée « Qui va cultiver la terre ?», elle est à retrouver sur le site de La Croix pour ceux qui voudraient aller plus loin sur cette question. On va parler de cinéma maintenant avec vous, Bruno Desruisseaux, journaliste aux Un Rock. Vous vous penchez ce soir, Bruno, sur les deux grosses comédies de l'été. Kaamelott et OSS 117, deux sagas cultes des années 2000, mais aussi deux manières de voir le monde.
À ma droite, Kaamelott, premier volet. 15 millions d'euros de budget, 423 922 entrées lors de son premier jour d'exploitation, ce qui est un record pour un film français depuis 2018, et un cumul de plus d'1,5 million d'entrées au bout de deux semaines. À ma gauche, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, c'est 18 millions d'euros de budget. Sorti hier, le film a totalisé 210 052 entrées lors de son premier jour, dont la mienne, puisque je suis allé le voir hier soir, avant d'enchaîner avec Kaamelott. Bah alors, pour ne rien vous cacher, j'ai souffert, beaucoup lors du premier, moins lors du second. Mais si ces deux comédies ne sont pas de franches réussites, ce n'est pas l'objet de ma chronique. En voyant ces deux films, je me suis dit qu'ils avaient à la fois énormément de choses en commun, mais qu'ils regardaient par contre dans des directions diamétralement opposées.
En plus d'être les mastodontes de la comédie française de cet été 2021, qu'est-ce qui les rapproche ?
Tout d'abord, il s'agit de deux parodies. La première, pensée en deux films par Michel Hazanavicius et à présent par Nicolas Bedos, mais toujours incarnée par Jean Dujardin, détourne les codes du film d'espionnage à la James Bond, tandis que celle imaginée, interprétée par Alexandre Astier, tout au long des six 17 ans de Kaamelott et à présent au travers d'un film, s'amuse de la légende arthurienne. Ces parodies sont quasiment nées au même moment, c'est-à-dire dans la seconde moitié des années 2000, 2006-2009 pour les deux premiers volets d'OSS, et de 2005 à 2009 pour la série Kaamelott.
Oui, il s'agit dans les deux cas d'un comeback.
Vous ne croyez pas si bien dire, Sonia, parce que totalement absente des années 2010, ces deux sagas cultes ont fait languir leur énorme fanbase pendant toute une décennie, avant de faire leur retour en 2021. Ce comeback est prolongé à l'intérieur même de la fiction, puisque Kaamelott premier volet raconte le retour d'Arthur au royaume de Bretagne après des années à vivre dans une vie d'esclave, tandis qu'OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, raconte la façon dont Hubert Bonisseur de la Batte va réussir à revenir dans le coup d'un monde qui est en train de le dépasser. Il s'agit donc dans les deux cas d'une figure de héros fatigué, perçue comme sur le déclin et dont l'objectif est de remonter sur le trône, au propre pour Arthur, au figuré pour Hubert.
Mais alors qu'est-ce qui différencie les deux films ?
Alors tout d'abord pour moi, c'est leur humour qui les différencie. Le rire dans OSS 117, c'est un rire de dominant, c'est-à-dire un rire d'homme blanc hétérosexuel, ce qui est en plus ici est misogyne, raciste et homophobe. Ouais. Les gens qui trouvent OSS 117 drôle, c'est aussi ceux, vous les entendez souvent, qui disent qu'on ne peut plus rire de rien. Eh bien non, moi j'ai plus envie de rire des violences infligées aux femmes, aux homosexuels et aux personnes non blanches. En fait, je comprends même pas comment on peut encore trouver ça drôle en 2021. Alors pour effectuer ce comeback à notre époque, on sent que Nicolas Bedos a armé son scénario de petits clin d'œil, par exemple à Black Lives Matter ou à hashtag MeToo, mais c'est fait avec un tel cynisme que ça en est vraiment détestable. Même si il n'est pas exempt de blagues sexistes, le rire dans Kaamelott repose plus sur une mécanique de l'absurde ou de la bêtise. Pour moi, c'est un rire qui n'est pas basé sur la moquerie, mais sur l'incompréhension et le langage. Et contrairement au cynisme du film de Bedos, Kaamelott est empreint d'une jolie candeur.
Et donc pour vous, c'est vraiment deux visions du monde opposées ?
Oui, car les deux films sont des récits dans lesquels un pouvoir oppressif est menacé par une insurrection. Si le film de Bedos louvoie un peu avec le pouvoir, il finit toujours par se placer du côté des puissants et du maintien de l'ordre patriarcal et colonialiste. Tandis que Kaamelott premier volet déploie une réflexion sur le pouvoir totalement opposé. Déjà la résistance y gagne, mais elle représente aussi l'occasion d'une association entre peuples et sa victoire est synonyme d'une plus grande répartition du pouvoir. D'une plus grande table ronde où chacun aurait sa place, comme le dit Arthur dans le film. Il y a dans Kaamelott une utopie de la pratique du pouvoir qui dialogue évidemment avec nos réflexions contemporaines. D'un côté, on a un film qui se moque de notre époque, OSS 117, et de l'autre, un film qui en épouse les questionnements et remise en cause. Bref, pour résumer, vous l'aurez compris, OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, est un film de droite et Kaamelott, premier volet, est un film de gauche.
Merci beaucoup Bruno de Ruisseau, journaliste aux Inrocks, et merci à vous Fanny Chéroux de La Croix à l'Hebdo. Né en 1974 à Dakar, il n'a que 2 ans quand il vient s'installer avec ses parents à Bordeaux. 2 ans, l'âge où on apprend à parler le peul à la maison, c'était obligatoire, le français à l'école. De ce métissage, il fera une richesse, celle des mots et de la création. Le poète et slameur franco-sénégalais Souleymane Diamanka est notre invité ce soir. Bonsoir.
Si quelqu'un te parle avec des flammes,
Souleymane, vous allez nous réciter un extrait de votre recueil de poésie dans un instant. Je vous sens très pressé. Mais d'abord, j'avais une question à vous poser, Souleymane. À quel âge est-ce que vous vous êtes découvert poète ?
En fait, j'ai eu la chance d'avoir un instituteur en CE2 qui était poète, Monsieur Boudou. Et au lieu de nous emmener faire du foot, l'après-midi, il nous faisait écrire nos propres poèmes, les apprendre par cœur et les réciter après à la classe. Donc je faisais du slam avant de rencontrer le slam en fait.
Et c'est ça qui vous a donné le goût de la poésie, le goût des mots. Vous publiez donc votre premier recueil de poésie, Habitant de nulle part, originaire de partout, aux éditions Point. Et vous allez donc nous en lire tout de suite un extrait. Ça s'appelle « Réponds-lui avec de l'eau ».
Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient un duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur Peul colore. Mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. Les soleils nomades de l'espoir réapparaissent alors dans les cieux comme des fresques immenses. Si quelqu'un te blesse avec les phrases qu'il lance, pense la plaie en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est ta noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore et dis-lui je te demande pardon. Parlons et repartons. D'après les anciens, quand le chemin n'existe pas, c'est en marchant qu'on crée le chemin. Et quand le schéma émotionnel est juste, pour le poète, c'est l'alchimie. Dis-lui que la vie est une histoire à la fois étrange et charmante. Chaque jour, ce sont des charbons ardents que j'arpente. Dans les jardins du chagrin de chacun, avec ses maisons sans murs et sans charpente. Dis-lui que des gens dorment dehors à la laide étoile, jeunes et vieux en danger. Les yeux rouges et les dents jaunes, certains ont les jambes mauves, la peau froissée par le froid, des gens pauvres, des sosies sociaux, des genres d'ombre, perdus dans des légendes mortes. Tandis que la nuit traduit la misère moderne et son jargon. Je te demande pardon, mais ce droit chemin-là n'est peut-être pas le bon. Il y a trop de cordes qui pendent au balcon, trop de colère qui court les rues avec des pleines lunes dans le dos. Par pitié, ma sœur, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Et regarde bien, les âmes errantes n'ont pas semé leurs anges gardiens. L'espoir et la lutte sont des fleurs du destin qui peuvent perdre leurs pétales fins, mais pas leur parfum. Et si toi aussi c'est à la planète Terre que t'appartiens, je te demande pardon. Parlons et repartons. Personne n'est là par hasard. À 16 ans, je me suis jeté dans le vide, un micro à la main. Et j'ai atterri sur scène devant vous, quelques milliers de lendemains plus loin. La voix pleine de sourires et pleine de larmes, sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir. J'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Les douleurs perdent de leur lourdeur lorsqu'on les partage. Même si la plupart d'entre elles ne partent pas, c'est pas grave quand on s'écoute, on s'entraide. Les soirées poésie, c'est regarder des êtres humains qui essaient de battre des ailes. Dès le départ, l'auditoire prépare nos victoires. Prendre le temps d'écrire pour le meilleur et pour le dire par les temps qui courent, c'est prendre part à notre histoire. Et yo, Wandia Koyo, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, Wandia Koyo. Dwaja bijene bawiyo, jo wanilao. Gondiam diam nyandara jango djemma djangine kampullo djaliya, jo wanilao. Et s'ils te demandent qui je suis, réponds-leur que tu ne sais pas. Et s'ils insistent, dis-leur que je suis Suleiman Diamankadi, Dwaja bijene ba. Fils de Boubacar Diamankadi, Kantalombi. Petit-fils de Makali Diamankadi, Mamadou Teneng. Arrière-petit-fils de Demba Diamankadi, Lengel Nyama. Etc., 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 etc.
Réponds-lui avec de l'eau. Extrait du premier recueil de poésie publié par le poète et slameur franco-sénégalais Souleyman Diamanka. Habitant de nulle part, originaire de partout, aux éditions Point. Merci Souleyman Diamanka.
Merci à vous.
Pourquoi ce titre, Habitant de nulle part, originaire de partout? Ça vient d'où?
C'est une expression qu'avait utilisée une fois Amadou Ampateba, qui était un des premiers à avoir retranscrit l'oralité des Peuls. Et on lui a dit, on lui avait demandé comment définir le Peul, sachant que c'est un peuple assez mystérieux, on ne sait pas trop d'où il vient. Et il avait répondu par cette phrase, le Peul, c'est l'habitant de nulle part et l'originaire de partout. Et Amadou Ampateba est très présent dans mon éducation. Et du coup, je lui ai fait un hommage et un hommage à tous les Peuls, quoi.
Écrivain et ethnologue malien, le Peul, je le disais tout à l'heure, c'est donc la langue qu'on parlait à la maison quand vous étiez enfant, et c'était obligatoire, vous n'aviez pas le droit de parler français.
Oui, c'était, en même temps, on était, c'était important qu'on soit bon à l'école, tout ça, qu'on se sente 100% bordelais, mais mes parents ont instauré ça quand on était à la maison, dès qu'on passait la porte, on se retrouvait dans leur village natal, et on était obligé de parler Peul pour qu'ils puissent nous éduquer avec assez de mots. Parce que dans toutes les langues, si on a très peu de mots, on a l'air bête et même on n'arrive pas à mettre des mots sur notre pensée. Alors pour qu'on sache qui était l'homme derrière papa et qui était la femme derrière maman, c'était bien de parler leur langue, quoi.
Mais vous dites une phrase qui est très belle, vous dites qu'ils étaient conscients que l'éducation c'est de l'amour et l'amour a besoin de beaucoup de mots pour s'exprimer.
Oui, énormément de mots et je pense même qu'il n'y en a pas assez de mots d'amour, quoi.
Les deux langues, le Peul et le français, elles se sont enrichies l'une l'autre, ou c'est plutôt le Peul qui est venu enrichir le français?
Non, ça, elles sont très très différentes et elles ont des richesses différentes en fait. La technique qu'il y a dans le français, ce qu'on peut faire avec les mots comme les holorimes, les palindromes, tout ça, il y a un côté, un aspect technique qui est extraordinaire et comme je suis un geek des mots, je me régale avec la langue française. Et la langue Peul, c'est plus une langue de précision. Par exemple, en français, pour le pluriel, on met un S et en Peul, ça devient un autre mot. et ça multiplie le langage, tout ça, et j'ai commencé à faire du verlan en peul, à faire des alexandrins en peul, tout ça, à enrichir la langue de mes parents avec la langue qu'ils ont rencontrée ici. Et pareil, il y avait plein de choses qui étaient dans le français, qui n'étaient pas dans le peul, et j'ai fait un genre de mix, quoi.
Ce recueil, il se compose de textes issus de l'album L'Hiver Peul, votre premier album studio, mais aussi de poèmes inédits. C'est l'écrivain Alain Mabankou, le nouveau directeur de la collection Point Poésie, qui vous a proposé de l'écrire. Et quand je prononce son nom, je vous vois sourire.
Parce qu'Alain, c'est une longue histoire, en fait. Je l'ai rencontré la première fois au festival Étonnant Voyageur. Et j'avais déjà énormément entendu parler de lui. Une fois, il m'a invité à interpréter un de ses textes. Et ça tombait à une époque où on m'avait reproché de réciter que des poèmes à moi. C'était le poète Yvon Lemaine, un poète breton extraordinaire, qui m'avait dit « Oui, mais vous, les gens du hip-hop, tout ça, vous êtes trop fermés, tout ça. Faut que tu t'ouvres, que tu récites des poèmes qui sont pas de ta plume. » Et à ce moment-là, il m'a proposé d'interpréter Black Bazar. Et une adaptation de son roman, il m'a habillé en sapeur congolais, tout ça, c'était super marrant. Et du coup, on est resté en contact. Et c'est quelqu'un qui a énormément de casquettes. Il m'a toujours dit que mes mots, ils pouvaient être lus aussi, et qu'ils pouvaient être, je pouvais les partager sans ma musique, sans ma voix. Et quand il a été nommé directeur de la collection Point Poésie, il m'a appelé. J'ai dit OK, on fonce quoi.
On l'écoute, Alain Mabankou.
La langue française est une aventure. Et dans une aventure, quand vous y allez, vous ramenez toujours un élément de chaque territoire que vous avez visité.
La langue française est une aventure.
Je suis d'accord avec ça. Et la langue française, c'est aussi un carrefour. J'ai rencontré énormément de poètes d'origine étrangère qui écrivaient aussi en français. Et on avait tous le même amour pour cette langue. Et il y a un côté, c'est comme si c'était un réservoir où toutes les poésies du monde, elles sonnaient encore mieux quand on les traduisait en français, quoi. Il y a un côté un peu comme ça.
Et il se reconnaît un peu en vous également, Alain Mabankou, parce que il dit que vous avez cette même manière de raconter un monde en train de se métisser où il ne sert à rien de bêler son particularisme.
Oui, c'est aussi mon éducation. Mon père, il voulait vraiment qu'on soit bordelais et il nous a dit de pas choisir. Parce que les Peuls, on est métissés avec énormément de peuples, avec les Arabes, avec les Juifs, avec les Asiatiques, tout ça. Vu qu'on était un peuple nomade, on a partagé notre humanité avec toute l'humanité. Et c'est vrai que c'est très présent dans mon travail, ce métissage-là. Ce métissage-là, il est important, en fait. Quelqu'un qui parle la langue d'un étranger, il devient un interprète, il devient aussi une passerelle. Et c'est très important pour moi d'être sur plusieurs tableaux.
Les poètes se cachent pour écrire. On va écouter maintenant ce poème qui se trouve dans ce recueil et qui était un slam dans l'album L'Hiver Peul. On écoute.
Sont les vêtements de l'émotion. Et même si nos stylos habillent bien nos phrases, peuvent-ils vraiment sauver nos frères du naufrage? Les poètes se cachent pour écrire ces peines légendes. Regarde, regarde-nous. On a traversé des rivières debout à la nage. On a dormi à jeun dans la neige, on est encore debout. Les poètes se cachent pour écrire, chacun purge sa pénombre. Dans une solitude silencieuse que certains pourraient craindre. En somme, les mots de s'additionner comme des nombres. La poésie opère comme une lumière mangeuse d'ombre. J'aime cet état, mais le temps qu'on passe à l'attendre n'est pas si tendre. Parfois, il faut presque s'éteindre pour l'atteindre. Versificateur notoire, chaque rime est une cascade. Dans les lieux oratoires, l'auditoire n'aime pas les phrases fades. Dans ma vie, j'écris plus de textes que ne reflète d'étoiles le grand lac Tchad. J'ai cherché la vérité dans les lignes de chaque énigme, de chaque conte et de chaque charade. J'ai interrogé les bons médiums pour chasser les mauvais djinns. J'ai répondu à mine quand ma mère m'a dit mal un médium. J'ai couru après les horizons sur chaque page, avec l'énergie des anciens possédés par le jazz, pour ne pas avoir à jouer à cache-cache avec le diable. Le poète se cache pour écrire, c'est pas une légende, John Banzai, regarde-nous. Toi et moi, c'est l'écriture qui nous lie.
C'est dans la solitude qu'on apprend la convivialité. Tant pis pour celui qui le nie. Le feu passe au vert et l'oralité passe par nous. Le verbe est une clé indispensable. Dehors, on nous demande des mots de passe partout. Les poètes se cachent pour écrire. C'est pas une légende grand corps malade. Regarde-nous. On a traversé des rivières de boue à la nage. On a dormi à jeun dans la neige. Et on est encore debout. Deysan bit de janana. Obidolam de fuladouim tanindo. Deysan bit de janana. Udouadia bitenebaim tanindo. Dans quoi souka la bomware. Ano yilo nombo la hajuni hendesade. No ye ye dole ano toro hare. Ananda donjada galana no lare. Konaye jombongon tanin jango larta manin. Sabukum badaka nan koken badan tanin. Sanda tini makanyonya da joma jaudi. Sawadani hayon jahan kanyele royade hililabi. Sahulani baba ma. Sayurma kinene ma. Tinna nona ye jokona duna ma upu aloba nat hore ma. Deisan, ononga kunina, sukatori, hada, sodi, jaya. Deisan.
Le poète et slameur Souleyman Diamanka est l'invité de France Inter ce soir. Les poètes se cachent pour écrire, issu de votre deuxième album paru en 2016. Être humain autrement. C'est quoi votre manière à vous d'être humain, Souleyman Diamanka ?
Être humain autrement, c'est voir plus ce qui nous réunit d'un être humain à l'autre plutôt que de voir nos différences. Et même nos différences, essayer d'en faire des choses complémentaires, parce que si toute l'humanité avait la même couleur de peau, c'est comme s'il y avait un groupe de musiciens où il y avait que des batteurs. Ou bien un groupe de musiciens où il y a que des bassistes, tout ça, pour que l'harmonie, elle existe, la différence est importante. Et c'est cette manière-là d'être humain. Que la différence, que ce soit une chance, quoi. Apprends-moi quelque chose. Qu'est-ce que t'as dans ton jardin?
La différence, le métissage, c'est ce qu'on vous a transmis. L'oralité aussi, le rôle des contes.
Des contes et des mots. On m'a toujours dit que les mots que je prononçais, c'était mon premier environnement. Et qu'il fallait que j'y fasse très très attention à quel mot je prononce et à quel mot j'écoute. Et mes parents étaient persuadés que si je connaissais par cœur tous les proverbes anciens peul, que je serais une belle personne et que je m'en sortirais dans la vie.
Bah, ils avaient raison.
Ouais, ils avaient raison. Et j'y crois. Et ça, je conseille ça à tout le monde. Faire attention aux mots qu'on prononce, surtout les jeunes. J'en parle des fois parce que c'est comme si on leur avait volé les mots de la joie. Pour dire que quelque chose est beau, ils disent « ah, ça déchire, ah, ça défonce ». Quand quelqu'un est talentueux, ils vont dire « ah, lui, c'est un tueur ». Et tout ce qui est censé être beau, positif, des mots de joie sont remplacés par des mots négatifs et du coup, ça les coince en fait.
Ces jeunes, vous allez les rencontrer dans des collèges, vous animez des ateliers d'écriture. Comment ils vous accueillent quand vous leur parlez de poésie? Ils se disent quoi? C'est ringard ou ils sont
ouverts? Non, d'abord ils sont curieux, ils me regardent de la tête aux pieds, genre qu'est-ce que c'est? C'est pas un prof, c'est pas un éducateur. Et en fait, après je joue avec, je leur demande à votre avis, il y a combien de mots dans la langue française? À ton avis, toi, tu connais combien de mots? À ton avis, si t'as 700 mots, est-ce que tu peux te défendre contre quelqu'un qui en a 20 000? Et je leur fais comprendre que les mots sont super importants, même pour savoir qui on est. Même pour se présenter, si on a que 100 mots à base de wesh wesh, y a plein de trucs qu'on peut pas dire, quoi. Et je leur fais comprendre qu'ils sont uniques. Et s'ils sont uniques et qu'ils sont sincères, s'ils s'adressent à l'humanité, l'humanité, elle va entendre quelque chose pour la première fois. Et je leur dis aussi, cherchez pas à faire quelque chose de beau. La sincérité, elle est plus puissante que la beauté. Et la beauté, elle finit toujours par rejoindre la sincérité. Et voilà, on commence à écrire. Je leur donne des techniques en leur disant que tous les poètes de toutes les périodes et de tous les pays, ils utilisent les mots de la nature. Et que si on mélange les mots de la cour de récréation avec des termes comme cascade, trombe d'eau, arc-en-ciel, brin d'herbe, tout ça. Si on mélange les lexiques, il y a une magie qui naît et ils s'en rendent compte. Au début, ils me disent « ouais, moi je n'écris pas, j'ai pas ce talent » ou bien « moi je le dis pas devant tout le monde ». Et je les rassure en disant que toute l'humanité a peur de prendre la parole en public et si on le fait entre nous, entre gens bienveillants, quand on sera amené à le faire dans la vie, on sera plus armés, quoi. Et ça les rassure. J'amène ça de façon ludique. Mais même les profs sont surpris. Ils me disent, ouais, mais cet élève-là, on l'a pas entendu de l'année. Là, il a ému tout le monde. Parce que, ouais, la magie, elle est dans les mots.
Alors, puisqu'on parle de bienveillance, on va écouter quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, Souleymane Diamanka, dans votre parcours. C'est Jean-Pierre Bacri.
Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un numéro de claquette? C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous êtes content. Bon, ben c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Il y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crêtes. Hein.
Jean-Pierre Bacri, dans Cuisine et dépendance en 92 de Philippe Mille. Vous pouvez me raconter votre rencontre avec Bacri?
Oui, déjà, je suis surpris que vous sachiez. Parce que j'en ai pas parlé à part mes très très proches et je lui ai juste fait une dédicace dans l'album. En fait, en 2006, j'étais dans une colocation qui s'est terminée, je me suis retrouvé à la rue. Et c'est comme si mon rêve de devenir poète à la capitale s'éteignait. J'allais repartir à Bordeaux et j'ai vu croiser cet homme. Et j'avais un truc qui était de, à chaque fois que j'admirais quelqu'un, je lui récitais un poème et je disparaissais, quoi. Et je me suis dit, Jean-Pierre Bacri, incroyable. Je lui ai dit, excusez-moi, je lui ai récité mon poème, les poètes se cachent pour écrire, c'est pas une légende, Jean-Pierre, regarde-nous. Il m'a écouté jusqu'à la fin, derrière ses lunettes fumées. Et après, je suis parti, il m'a rattrapé en me disant, vous êtes qui? Qu'est-ce que c'est? Tout ça, je lui explique un peu mon parcours. Et je me livre, comme il avait le temps pour m'écouter. Et je lui dis, ouais, je vais rentrer à Bordeaux, ça fonctionne pas, tout ça. Et il me dit ok. Et en me disant au revoir, il avait quelque chose dans la main et qui était une liasse de billets. Ça me fait bizarre de parler de ça. Et en fait, il m'a dit vous venez de me faire un spectacle. Je vous paye pour le spectacle que j'ai vu et je suis persuadé qu'on se reverra et que votre plume, ça va aller quelque part. Et c'est lui qui a disparu.
30 secondes, Souleymane Diamanka, pour parler d'un exemple de conviction qui a changé le réel. Les 40 ans de la loi Lang sur le prix unique du livre, on vous a proposé de choisir un livre. De quel livre vous nous parlez ce soir?
Je parle du livre de Gaël Faye, Petit Pays, parce que j'ai vu l'évolution de ce livre en fait. La première fois que je l'ai entendu, c'était dans une slam session, c'était un poème. La deuxième fois que j'ai entendu Petit Pays, c'était une chanson. La troisième fois, c'était un livre. Et la quatrième fois, c'était un film. Et je me disais, c'est extraordinaire de voir la poésie, comment ça peut fleurir, quoi. D'une graine avec des mots, de la sincérité, juste sa voix, ce que c'est devenu. Et c'est quelqu'un qui me fascine, hein, Gaël. On s'est rencontrés il y a très longtemps sur les scènes slam. Et c'est un parcours juste magnifique, quoi.
Merci beaucoup, Souleymane Diamanka, habitant de nulle part, originaire de partout. C'est donc le titre de ce recueil de poèmes. Je signale que vous serez au Festival des Récollets à Paris le 10 septembre et à la Maison de la Poésie le 1er octobre. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathieu Volant à la programmation, sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir. Antoine Cruchon, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain.